à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
D'ATH.
Salut à tous.
De Ben.
Salut.
Et de Mordren.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, on vous parlera de plein de choses. On vous parlera d'un remake de Panzer Dragoon, nous parlerons ensuite de Fight Tactics, nous évoquerons également Super Meat Boy Forever, Away Journey to the Unexpected, Tunche, je sais même pas comment ça se prononce ce putain de titre sérieux.
Ouais, quoi. Tunche, je crois que c'est
Tunche. Ouais. Tunche, ou Tunche, bref, voilà, un titre à coucher dehors ensemble. On évoquera également The Walking Dead Final Season, Hytale, un jeu de la communauté Minecraft. Nous enchaînerons ensuite sur Discord, Bethesda, du gameplay pour Beyond Good and Evil 2, le crossplay et Capcom qui a décidé de nous faire rire cette semaine. Vous allez voir, c'est très savoureux.
Enfin, ou pleurer.
Il y a beaucoup de choses, messieurs. Je compte sur vous. Hein.
Je compte sur votre professionnalisme.
Voilà, tout à fait. Hein. On ne s'étale pas. Voilà. Et je dis ça alors que je vais commencer par une news où je vais sûrement m'étaler. Alors, je vais vous parler d'un remake qui a été annoncé. C'est celui de Panzer Dragoon 1 et 2. Et pourquoi, contrairement à tous les remakes qui sont annoncés d'habitude, je suis sérieusement hypé? Alors déjà parce que c'est un jeu Saturn et que la Saturn c'est bien. Mais surtout parce que, comme pas mal de jeux Saturn, il se trouve que, bon, déjà la Saturn c'est une console qui est assez difficile à émuler, n'est-ce pas ? Ça plus le fait que, honnêtement, il y a beaucoup de jeux de Saturn qui sont franchement dégueulasses aujourd'hui, enfin tout ça en 3D quoi, pour résumer, et que un remake de ces deux jeux que je trouve absolument fabuleux, je ne dis pas non, je le rappelle, Panzer Dragoon, ce sont au début des rail shooters avec une direction artistique très fortement inspiré du travail de Jean Giraud, aka Moebius, n'est-ce pas ? Qui avait d'ailleurs fait la couverture japonaise du jeu, que je dois avoir quelque part dans un carton, parce que j'avais une version japonaise de Panzer Dragoon premier du nom, n'est-ce pas ? Et c'est surtout un jeu avec un univers absolument envoûtant, fabuleux, qui a été magnifié par un troisième épisode qui, pour le coup, n'était plus un shooter, mais RPG franchement original dans ses mécaniques, qui était Panzer Dragoon Saga, qui était sorti également sur Saturn, et qui a été suivi plus tard par un dernier épisode sorti sur Xbox, Panzer Dragoon Horta, qui revenait aux racines shooter de la série, mais qui empruntait quelques idées à Saga, notamment les mécaniques de transformation de dragon qui avait été créé dans cet épisode-là. Horta qui était l'un des plus beaux jeux de la Xbox d'ailleurs, je tiens à le dire. Enfin bref, c'est une série que j'adore, c'est une série avec un univers qui est très poussé, ça fait partie de ces licences où les mecs se sont dit « Tiens, si on créait un langage qui sera parlé dans notre jeu, hein, genre il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français, c'est vraiment la langue du jeu qui s'appelle le Panzerese. » Et on va créer notre univers comme ça, on va le développer. Voilà, enfin c'est un univers absolument intrigant. Et j'espère que pour le coup, ces deux premiers remakes ne sont que le début d'une longue série. Et surtout que le studio polonais qui est derrière, et qui pour le coup est vraiment inconnu au bataillon, saura se montrer respectueux de la licence et surtout de la direction artistique. N'est pas Moebius qui veut, n'est-ce pas ? Donc j'espère vraiment que ils sauront rendre hommage à la DA de ces jeux-là. Et puis aussi qu'ils bosseront un peu sur le gameplay, parce que c'est vrai que, bon, c'est des rail shooters qui ont pas mal vieilli. Déjà, Horta avait, disons, pas mal réactualisé la formule, et j'espère qu'ils vont bien bosser pour rendre le gameplay un peu plus intéressant. Voilà. ATH, je crois que tu avais quelque chose à dire.
Oui, je tenais déjà à signaler que, aux éditeurs, j'espère qu'ils ont bien noté comment tu te la pètes avec ton édition spéciale à 200 boules aujourd'hui sur eBay.
Pour le coup, Panzer Dragoon 1, il est assez facilement trouvable. Celui qui a 200 boules, c'est Saga. Et celui-là, je l'ai pas par contre. Hein, c'est un pote qui me l'avait prêté. Il est resté quelques années chez moi. J'avais pas envie de le rendre, mais j'ai dû finir par le rendre. On m'a menacé.
Et ce que je voulais dire, c'est la menace. Concernant le jeu, j'espère vraiment que le remake sera de bonne qualité parce que c'est un rail shooter et c'est un genre de jeu qui ne se fait plus trop actuellement. J'espère qu'il va quand même rencontrer son public. Surtout que c'est des jeux Saturn, c'est-à-dire qu'on les trouve pas sur le PlayStation Store ou sur le Xbox Live. Et donc, ça serait bien qu'ils arrivent à faire quelque chose d'assez chouette, que ça soit visuellement et en termes de gameplay. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est comme t'as dit, c'est des mecs qu'on connaît pas du tout. Donc j'espère que pour leur CV ça va être aussi une bonne première expérience, parce que là en gros on n'a pas de plus d'informations que ça quoi.
Bah il faut espérer que Sega a mis le budget aussi, parce que moi c'est ça qui me fait peur avec Sega. Ils ont tendance à faire des projets au rabais, tu vois, donc bon.
Ah, comme Shenmue, hein.
Bah, c'est cool, ouais, que ce soit un remake. Après, moi, je pense que c'est un truc qui est assez nécessaire, parce que Panzer Dragoon, c'est une saga qui est un peu culte, dans le sens où il y a pas mal de gens qui l'ont connue, et j'en fais partie, bah, longtemps après. Ça fait partie de ces licences qui sont un peu nécessaires à faire en remake, parce qu'aujourd'hui, les avoir avec la qualité d'origine, c'est un peu plus dur, quoi.
Bah, surtout qu'en plus, les émulateurs Saturn, même s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, c'est pas encore le top du top, tu vois.
En plus.
Ça, plus le fait que même avec de l'émulation, je suis désolé, les jeux Saturn en 3D, c'est de la chiasse, hein, faut dire ce qui est. Même non. Panzer Dragoon Saga, qui est l'un des jeux les plus beaux de la console, et qui, pour le coup, défonce un jeu comme Final Fantasy VII, par exemple, en termes de technique pure, tu vois. Même celui-là, il a super mal vieilli, quoi. Alors, j'espère, par contre, que, à terme, ils ont pour projet de s'occuper de Saga si les remakes du 1 et du 2 se vendent bien, parce que pour le coup Saga par contre, si vous voulez, quand on a joué à Panzer Dragoon 1 et 2, on a joué à deux rail shooters un peu sympathiques avec un scénar qu'on comprend pas trop, et finalement le jeu qui donne tout son sens au scénar de Panzer Dragoon 1 et 2, c'est Saga en fait. C'est un jeu qui est indispensable dans cette série, et c'est surtout celui qui vaut le plus cher. Donc ouais, je prie, s'il vous plaît Sega, vous foirez pas, s'il vous plaît. Allez, messieurs. Bon, comme prévu, j'ai digressé, hein. Désolé, c'est une série qui est chère à mon cœur. Voilà. On va maintenant parler d'un projet que j'attends avec impatience. C'est Fight Tactics. Fight Tactics, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement un RPG par les créateurs de Vladis Story. J'ai nommé Endless Fluff Games. Vladis Story, je rappelle, c'était un Metroidvania que j'avais fortement apprécié. Je vous avais dit tout le bien que j'en pensais. Un Metroidvania fort sympathique. Et là, donc, ils ont annoncé un RPG tactique, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, mais ma foi, dont je suis tombé absolument amoureux de la direction artistique, qui me rappelle les heures de gloire de la Game Boy Advance. Mais tu sais, c'est un peu comme Shovel Knight, etc. C'est-à-dire que, ok, ça ressemble à la Game Boy Advance, mais en vrai, quand tu regardes de plus près, tu sais très bien que ça ne tournerait jamais sur une Game Boy Advance. Voilà.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est de la Game Boy Advance telle que tu te souviens que c'était, mais c'est pas du tout de la Game Boy Advance telle que c'était affichée à l'époque sur la console, quoi. Et je te rejoins là-dessus. Je trouve que l'univers graphique et la direction artistique est vraiment assez frappante, et moi qui aime bien les RPG tactiques comme ça à l'ancienne en 2D, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je pourrais éventuellement me laisser tenter par celui-ci, si tu me dis en plus que Vladis Story c'était plutôt correct, voilà, ça fait un bon point en plus pour Fate Tactics.
À Vladis Story, c'est clairement l'un des Kickstarter que je n'ai pas regretté d'avoir financé en tout cas, ouais. Voilà. Bon. On va maintenant enchaîner sur un autre jeu, c'est Super Meat Boy Forever, qui est l'une des exclusivités d'ailleurs de l'Epic Game Store, hein, ça a été dévoilé durant les fameux Game Awards, n'est-ce pas, qui sortira le 4 avril 2019. Alors pourquoi j'ai voulu parler de Super Meat Boy Forever? Parce que il y avait un détail que j'avais oublié, et qui a mis mais tout le hype que je pouvais avoir pour ce jeu à zéro, quoi. Alors, c'est pas qu'ils sortent sur les Epic Games Store, ça je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, hein. Non, ce qui m'emmerde beaucoup, par contre, c'est que c'est un putain de runner, quoi, en fait. Et là, pourquoi? Mais pourquoi, quoi? Non, mais sérieusement, quoi. Enfin, pourquoi avoir fait d'un jeu de plateforme un runner? Mais sérieusement. Alors, désolé, pour les runners, je vais montrer un peu irrespectueux. Parce que, pour moi, le runner, si je veux, c'est un peu un sous-genre, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc qu'on a créé sur les téléphones, parce que, comme c'était trop compliqué de faire des contrôles corrects pour un jeu de plateforme sur téléphone, on a créé des runners où t'appuies sur un bouton et le perso, il saute au bon moment, tu vois. Donc, c'est des jeux de réflexe où t'as pas vraiment contrôle sur le perso, et j'ai horreur de ça, tu vois. Donc, pour le coup, alors, Super Meat Boy Forever, c'est un pote qui m'a dit ça, qui m'a ramené à la réalité, si tu veux, j'étais overhype, et là, j'ai fait, ah ouais, c'est un runner, bref, ouais, super, ouais, bah, dommage, hein, voilà. ATH.
Le fait qu'il soit en runner, je pense que c'est, faut pas le prendre vraiment comme une suite à part entière, c'est vraiment un petit jeu qui va être fait là, plus pour les speedrunners, entre guillemets. Ils ont quand même gardé l'essence même du jeu, c'est-à-dire un jeu avec une grande difficulté. On le voit avec le nombre de Meat Boy, par exemple, qui font la même course que toi et puis qui montrent où ils sont morts. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un runner, mais ils n'ont pas fait un runner juste pour le sortir sur mobile et se faire du fric. Ils ont quand même gardé ce qui faisait un peu l'essence de la série.
Non, mais je suis d'accord. Je dis juste que moi, les runners, enfin, pour moi, le runner, c'est vraiment le truc, on a créé ça parce qu'on savait pas faire des jeux de plateforme sur mobile, tu vois. Enfin, moi, c'est peut-être une vision très caricaturale que j'ai du truc, mais c'est celle que j'ai, en tout cas. Le peu de runner que j'ai fait, franchement, j'ai toujours trouvé que le gameplay était beaucoup trop limité pour être intéressant, en fait.
En fait, c'est les jeux sympas quand tu le fais dans la file d'attente, quoi. C'est comme ça que, à la base, ça a été créé. Par exemple, il y avait les deux Rayman qui a été fait par Ubisoft. J'ai trouvé ça sympa, parce que déjà, graphiquement, c'était très beau, mais... Après, je vois, c'était pas, il fallait pas s'en attendre à plus, c'est-à-dire que je le picorais, voilà, petit à petit, et j'ai pas un jeu sur lequel je me suis beaucoup attardé, et pour le peu que j'ai joué, j'ai passé un bon moment, voilà.
Moi, je me dis, faut voir, quand même, parce que, là, vous parlez beaucoup de runner mobile, moi, je pense surtout Beat Trip Runner, et, qui, pour le coup, c'était un peu plus que juste appuyer sur un bouton. Mais je me souviens que j'avais bien aimé, alors, je les ai pas tous faits, hein, au final, mais, il y avait aussi la dimension, bande-son. Qui était importante dans Beat Trip Runner, et je sais que ça m'avait marqué aussi. Et là, faut voir ce qu'ils ont à proposer. Moi, j'ai un peu peur, effectivement, comme vous, que ça soit juste une succession de niveaux. On parle quand même de 7200 niveaux. 7200, hein. Est-ce que ils vont tous être aussi durs les uns que les autres, ou est-ce que, au contraire, c'est la pure masse qui donne au nom son sous-titre de Forever? Faut voir, parce que ça reste quand même des mecs qui sont très très attachés au gameplay, et bon, je vais essayer de leur donner le bénéfice du doute pour l'instant, parce que effectivement, le fait que maintenant Meat Boy est une attaque, ça va aussi pouvoir développer un certain nombre d'autres choses en termes de gameplay, notamment dans les combats de boss, qu'on a très très rapidement esquissé dans le trailer. Donc je suis curieux, je suis un peu comme vous, je reste un peu circonspect quand même.
Bon, maintenant, Antoine, tu vas nous parler d'un jeu où le héros a une serpillière sur la tête. On en avait déjà parlé ici. Je me rappelle, c'est la remarque que je m'étais fait à l'époque. Hein,
Mais tu sais, anecdote, j'étais sur les forums de Game Cult et j'ai vu ton commentaire. Je regardais un peu les commentaires et puis je fais mais putain, mais c'est tiens ça.
Est-ce que tu as vu N'est-ce pas à la fin du post ou pas?
N'est-ce pas? Donc Away Journey to the Unexpected, c'est le nouveau jeu d'Aurélien Regard, donc qui est un ancien de chez Ubi et qui a travaillé sur notamment The Next Penelope. Donc il travaille un peu presque seul, donc c'est-à-dire qu'il a eu de temps en temps des gens qui viennent l'aider. Donc le principe en fait de Away, c'est de la première personne, c'est un jeu d'aventure. Ça va combiner donc action avec des éléments de roguelite. Et le pitch du jeu, c'est un peu de se dire que le héros, il sait pas se battre, il sait rien faire, mais par contre, il va se battre grâce au pouvoir de l'amitié, parce qu'en fait, il va à chaque fois devenir ami avec les gens et utiliser les atouts de chaque personnage et tout.
J'ai envie de dire, c'est pas un hasard s'il a la gueule de Sangoku.
C'est ça. Donc après, l'aspect visuel, c'est un peu inspiré de l'animation japonaise. Donc
ce monsieur n'est pas du tout quelqu'un de la génération Dorothée, hein, pas du tout.
C'est ça. Et le concept qui est intéressant visuellement, c'est qu'en fait, t'as un aspect première personne. Tous les personnages, finalement, sont sur un plan, sont plats, en fait. En gros, il faut imaginer que c'est comme une feuille de papier, et quand toi tu vas te tourner, le personnage va se tourner en même temps que toi. Je suis assez saucé, j'attends, ça arrive en février 2019 sur tous les supports. Après, il y a différentes dates, genre 5, 7, 8 sur console, et après sur PC, courant février 2019.
Ok, d'accord, très bien. Tu vas garder la parole, Dwayne, et tu vas parler du jeu là avec un titre accouché dehors que tu vas prononcer parce que je suis incapable de le prononcer, voilà.
Ça s'appelle Tunch, je crois. Je ne sais pas ce que veut dire le nom, faudrait que je demande au dev sur Twitter. En tout cas, c'est un beat'em all en 2D qui a des éléments de roguelike. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le style visuel et aussi ce que veulent faire les développeurs. Donc c'est un studio qui s'appelle Leap Game, qui est au Pérou. L'aventure va se passer dans la forêt amazonienne et ils vont prendre tout le folklore de la forêt amazonienne. Et derrière, ils ont aussi envie de créer un système de combat un peu inspiré des Devil May Cry et de Bayonetta, donc avec un système de combat assez poussé. Là, ça va arriver sur Kickstarter. Le 14 janvier, il y aura une démo qui sera dispo le même jour pour voir un peu le système de combat, etc. Donc voilà, encore une fois, assez hypé. Et de toute façon, rendez-vous en janvier pour voir ce que ça donne, quoi.
Bon, On va passer à une news qui va faire que les fans de Walking Dead vont enfin respirer, à savoir, messieurs, que ça y est, c'est confirmé, Walking Dead Final Season, l'épisode 3, sortira le 15 janvier 2019. Est-ce que vous respirez, messieurs ?
Bah, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça aura laissé suffisamment de temps à l'équipe qui a été formée du coup sur les cendres de Telltale Games pour faire honneur à cet épisode 3 et du coup au dernier qui sera le suivant. Skybound avait fait les choses bien. Clairement, c'est plus un move de sauvetage que un move de financier, quoi.
Ben ?
Ouais, j'allais dire, moi je trouve toujours aussi efficace par contre leur trailer. Alors je sais pas qui c'est qui l'a fait celui-là, si c'est l'ancienne boîte ou la nouvelle, mais le jeu, j'ai fait le premier et je suis pas allé plus loin pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées ici. Mais quand je vois le trailer, je suis presque de nouveau hypé. Ça me donne presque envie. Alors après, je sais que je vais pas le faire parce que voilà, la raison va me rappeler à me dire ah ben non, tu vas te faire chier, etc. Mais par contre, je trouve que c'est toujours aussi efficace. Alors après, voilà, je sais pas qui c'est qui a pondu le trailer, par contre.
C'est vrai qu'il y a des rémanences comme ça quand on regarde ce trailer. Alors, est-ce que par contre ils ont pas spoilé la fin du jeu du coup ? Suspense.
Moi j'ai fait en sorte de pas le mater parce que moi je pense que la dernière, je me rappelle même plus si j'ai fait la saison 3. Donc très honnêtement, je sais pas si je vais la faire, mais pour avoir vu l'alpha et l'oméga de Telltale, c'est-à-dire donc la première saison de Walking Dead et donc la fin, c'est-à-dire ce qui l'a tué. Pour au moins voir d'un point de vue un peu pas scientifique, mais histoire de voir en fait comment ils se sont démerdés jusqu'au bout, ça m'intéresse de ce point de vue-là, quoi. Côté un peu post-mortem.
Tout à fait. Bon, chers auditeurs, l'heure est grave. J'ai une annonce à vous faire. Ça y est, Morren va se remettre aux vidéos Minecraft. Attention.
Entre le nouveau jeu des mecs de Ark la semaine dernière et là le clone de Minecraft, on est bon quoi.
On est ouais.
Vous l'avez réclamé, ça y est, il va s'y remettre. Voilà. He's back, n'est-ce pas ? Parce que il y a un petit jeu qui a été annoncé récemment. C'est un jeu qui est financé par Riot Games, rien que ça, et qui est fait par un studio inconnu au bataillon qui s'appelle Hypixel Studio. Alors, qui c'est Hypixel Studio ? Bah, c'est un studio qui a été créé par des fans de Minecraft et des administrateurs surtout de l'un des plus gros serveurs de Minecraft et qui se sont dit ben en fait vous savez quoi, on va faire notre jeu. Et ma foi, Morren, ce qu'on peut voir, ça a l'air prometteur déjà sur plan visuel. Ouais. Enfin, faut dire que c'est un jeu qui a une vraie identité artistique déjà, premier point. C'est pas juste un clone de Minecraft comme ça vite fait, même si très clairement
ah oui,
ça a la gueule d'un Minecraft, mais je trouve qu'ils ont réussi à y mettre leurs pattes déjà, premier point. Et surtout, ils veulent insister sur un aspect qui ma foi a l'air très important et on le comprend quand on sait d'où viennent ces gars-là, à savoir l'aspect communautaire du jeu. Apparemment, ils veulent donner plein d'outils aux joueurs pour créer des mods, créer des vidéos, etc. Et ça, ma foi, je pense qu'ils ont à peu près tout compris sur ce plan-là.
Ah bah clairement, on sent que c'est des gens qui ont poncé le jeu dont ils s'inspirent et très honnêtement, quand on regarde le trailer, déjà, c'est méga propre visuellement. Alors, je suis pas forcément très fan de la direction artistique, du chara-design en tout cas. Par contre, tout ce qui est monde, ça me plaît bien. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que t'as l'impression que toutes les fonctionnalités qui sont proposées alors que le jeu est pas du tout sorti, machin et tout, c'est plus que ce que Minecraft nous proposait à l'époque où c'est sorti. Ne serait-ce que nager sous l'eau, par exemple. Il y a vraiment un côté, ça fourmille de détails beaucoup plus poussé que Minecraft à l'époque. Alors bon, vous allez peut-être me cracher dessus, mais ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu. Si jamais, voilà, vous m'écoutez, vous me dites « Oui, mais Minecraft, ça a beaucoup évolué, machin. » J'en sais rien, j'ai plus suivi. Mais en tout cas, force est de constater que, déjà visuellement et en termes de fonctionnalité, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, en termes de service à la communauté, il y a tout ce qui a fait le succès de Minecraft de ce point de vue-là. Le côté aventure, le côté mini-jeu évidemment, le côté rassemblement événementiel de joueurs. Ils ont prévu de pouvoir faire des événements où sur un serveur, les gens se réunissent pour regarder une même vidéo en même temps. qui peuvent même tourner des films à l'intérieur du jeu pour faire des vidéos de ce même jeu. Moi, je trouve ça dingue, en fait, de en termes
scripter
de fonctionnalité.
Scripter des quêtes aussi, tu vois, faire de la mise en scène durant les quêtes. Non seulement ouais. il te propose un jeu, déjà de base, mais il te donne tous les outils pour créer des ouais. aventures, quoi, en fait.
Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien voir, c'est à l'époque où Minecraft a vraiment explosé, c'est la scène YouTube qui a un peu fait exploser Minecraft, hein, on va pas se mentir. Le côté, on vous apprend à jouer au jeu, évidemment, tout ça s'est passé. Mmh. Mais après, il y a une deuxième vague qui a été de créer du contenu via le jeu. Donc ça a été des espèces de courts-métrages, mais ça a été aussi des saisons, on va dire, à objectif. Et tout ça, là, c'est déjà présent dans Hytale. Et c'est pour ça que moi, je me dis que les développeurs du jeu, ils ont vraiment intériorisé ce qu'a fait le succès communautaire de ce jeu-là. Et si le terreau est encore fertile, et j'en sais rien d'ailleurs, du point de vue de la communauté Minecraft, ça serait pas étonnant qu'ils réussissent un petit peu leur coup, quoi.
ATH ?
Oui, alors moi je suis pas du tout un joueur de Minecraft, j'y ai jamais joué, j'ai regardé un petit peu ce que ça racontait. Bon, c'est pas un jeu qui m'intéressait. Par contre, si je devrais bien jouer à un Minecraft-like, je pense que celui-ci pourrait davantage m'intéresser. Déjà, le fait qu'on peut soi-même construire ses propres aventures. Le ouais. fait que ça mélange pas mal d'exploration. Et même le jeu a l'air d'avoir un éventail et un panel de gameplay qui viennent comme ça s'additionner au jeu. Et du coup, en fait, t'as un jeu dans un jeu qui est dans un autre jeu. T'as l'impression d'avoir des poupées russes que t'ouvres à chaque fois. Et je sais pas, je trouve ça juste génial. Et en plus de ça, il y a l'aspect création. Donc, moi, je pense que c'est un jeu, en termes d'épanouissement personnel et développement de l'enfant, qui peut être très intéressant. Mais aussi pour des gens qui ont un peu plus d'expérience au niveau jeu vidéo, qui te laissent libre, vraiment, de créer toi-même tes propres quêtes scénarisées et tout. Et voilà, moi, ces jeux-là, rien que le trailer d'annoncement, il m'intéresse pas mal et il m'intrigue vraiment beaucoup, en fait. Et du coup, je pense que je vais garder quand même un œil assez curieux là-dessus pour voir ce que ça va donner. En tout cas, les promesses qui sont faites dans le trailer sont très très intéressantes. Après, il faut voir si ça va être tenu et comment ça va être géré, quoi. Mais c'est vrai que ça annonce du lourd.
Dwayne.
Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu la boucle ultime parce que du coup, Minecraft, c'est à la base un jeu qui a totalement dépassé les développeurs et qui a été pris en main par justement sa communauté. Enfin, c'est eux qui ont fait le succès et qui fait que c'est ce que c'est aujourd'hui. Un jeu qui est fait par cette communauté qui a justement dépassé le créateur, bah c'est un peu la boucle ultime. Et sachant qu'aujourd'hui, en plus, bah Minecraft, c'est Microsoft, il y a peut-être aussi ce truc à prendre, parce que si c'était toujours dans les mains des créateurs, je pense qu'il y aurait toujours cet affect. Mais là, vu que c'est la
un grosse phénomène
boîte,
de défiance, quoi.
Voilà. Et après, bah, ils ont toutes les cartes en main, sachant que là, ça fait 3 ans qu'ils le développent. Il y a une bonne équipe, il y a les mecs de Riot, des anciens de chez Blizzard qui ont investi. Enfin, on est vraiment... tous les feux sont ouverts. Vraiment curieux de voir ce que ça va donner.
Et juste pour préciser une dernière chose, pourquoi on en entend parler récemment, c'est parce que y a l'ouverture du programme d'inscription à la bêta qui vient de s'ouvrir, justement. Mmh. Voilà, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller mettre votre petite adresse mail pour être au courant de quand est-ce que ça arrivera. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune date. Hein.
Bon, on va enchaîner avec une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume. Bethesda a enfin pris une bonne décision cette semaine. Bon, ils ont fait 2-3 bourdes entre-temps, je vous rassure. Hein. Là, en ce moment, il y a une shitstorm sur Fallout 76 parce qu'ils ont sorti un patch déjà qui a encore plus cassé le jeu, qui a rajouté du grind dans un jeu qui en avait déjà suffisamment. On va pas charger la barque, j'ai envie de dire. Là, j'ai vraiment l'impression de frapper un cadavre, donc je vais pas m'acharner, n'est-ce pas ? Mais par contre, ils ont pris enfin une bonne décision, et cette bonne décision, c'est le fait d'avoir retiré des nouveaux de Dishonored 2. Ah bah putain, il vous en aura fallu du temps. Hein. Bon, je vais pas vous jeter la pierre parce que vous faites partie des seuls éditeurs qui font ça régulièrement, hein, quand même. Donc, c'est cool, Dishonored 2 va enfin être fréquentable. Merci beaucoup Bethesda, c'est super. Par contre, bon, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, surtout quand tu vois le succès commercial du jeu. Voilà, voilà. ATH ?
Oui, bah en fait, t'as tout dit ce que je voulais dire, c'est juste que je trouve ça un petit peu con de le virer maintenant. Enfin, c'est, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Enfin, tu vois, pour moi, le problème, il vient en fait à la base, quoi. C'est pourquoi avoir mis des nouveaux. C'est pas le fait de l'enlever. C'est déjà à la base pourquoi l'installer dans le jeu, parce que surtout que ça crée des problèmes aux gens qui payent leur jeu. Et ça crée pas des problèmes aux gens qui le piratent. Donc c'est ça qui est complètement illogique en fait.
Surtout
avec ce système.
Que les éditeurs ont tendance à implémenter ça avec la bite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que genre je crois que c'est Sonic Mania où ça ils ont fait ça tellement à l'arrache que ça provoquait des ralentissements sur le jeu sur la fin. Enfin bref, GG les mecs quoi. C'est.
Et pour mettre un dernier petit coup de couteau à Bethesda quand même, Fallout 76 a les mêmes bugs que Fallout 4. Voilà, je dis ça, je dis rien.
C'est pas surprenant hein, vu la tronche du jeu, honnêtement.
Bah en même temps, c'est même pire que ça, TH. Il y a des traces de code dans le jeu où il y a marqué Fallout 4. Je dis ça. Hein. Je veux dire, il y a un dégueu.
Mais quel génie.
Voilà. Bon, on va maintenant parler de Discord qui a décidé d'emboîter le pas à Epic Games, n'est-ce pas? À savoir que bon, Epic. Ils ont proposé 88%, je crois, c'est ça, hein. Eh ben, nous, on va faire mieux. On va faire 90%. Et là, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Epic, hein? Hein? Qu'est-ce que vous en dites, hein, monsieur? Hein? Allez, come on, come here. Bon, sinon, plus sérieusement, très sincèrement, je suis pas forcément fan de ce qui est en train de se passer. Parce que bon, c'est une chose de donner plus de revenus aux développeurs, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faudrait pas non plus que ça parte dans un délire totalement inverse, où on va baisser de plus en plus les revenus, et au bout d'un moment on va se dire, bon, alors du coup, comme on prélève plus assez sur les studios, comment on va se faire de la thune autrement en fait? Genre tu sais, je sais pas moi, on va commercialiser les données personnelles des gens, on va mettre de la publicité... Il faudrait pas non plus qu'on arrive à un déséquilibre qui ferait que, in fine, on rentre dans une guerre des prix qui va faire que on va demander de moins en moins de revenus au studio et que ce sont les utilisateurs finaux qui déjà doivent payer les jeux vont en plus devoir payer le service de téléchargement des jeux, etc. quoi. Voilà. Dwayne?
Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, le truc, c'est comme tu l'avais un peu pointé du doigt dans leur post, en fait, de blog, c'est qu'en plus, au niveau de la curation, bah apparemment ça va être open bar. Donc si c'est pour venir mettre un système où tu vas filer 90% par rapport aux moyens financiers de Discord, j'ai pas l'impression effectivement qu'ils pourront soutenir ça sans passer par de la pub ou de la vente de données. Et en plus, avoir un open bar comme sur Steam, ça... Il y a vraiment aucun intérêt pour moi.
Je rappelle qu'à donc, la base, ils avaient annoncé qu'ils allaient faire de la curation. Enfin, moi, il me semble avoir lu ça. Hein. Peut-être que j'ai déliré, mais
En voilà. tout cas, c'est ce qu'on en avait déduit du lancement du store de Discord avec le fait, parce que je sais plus exactement comment ça se mettait, mais en gros, ils disaient que s'il y avait des Discord exclusives, donc on en avait déduit que ils allaient faire le travail de curation que Steam ne fait pas. Alors
là,
c'est clairement pas
mauvais,
cette voie.
Hein.
Ouais, là,
c'est...
ils ont clairement dit que ça allait être open bar. Hein. Là, par contre, c'est un peu plus clair. Donc bon, honnêtement, si c'est pour avoir la même chose que Steam, mais en moins bien. Bon, alors certes, vous allez peut-être récupérer du coup les exclusivités d'Epic. Ah oui, d'ailleurs ça, tiens, ça va être intéressant par contre. C'est-à-dire que bon, on est d'accord. Là, ils vont donner plus de pognon. Donc, en théorie, s'il n'y a pas eu d'accord entre Epic et les studios qui sont exclusifs chez eux, ils devraient pouvoir librement sortir le jeu sur Discord. Donc, ça va être intéressant de regarder les studios exclusifs qui sortiront leur jeu sur Discord ou pas. Comme ça, on saura s'il y a des accords sous la table ou pas. C'est juste... par contre, pour ça, c'est intéressant. Bon, quelque chose à ajouter, messieurs? En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que, pour le coup, Discord, ça fait pas très envie. Hein.
Ouais. Ouais, mais je te rejoins sur la crainte du... comment, en fait, ils financent le gap entre les 30% habituels que Steam prenait et que, visiblement, ils étaient prêts à prendre eux aussi au moment où ils ont lancé leur store, et les 10%, qu'est-ce qui fait le pont entre ce manque à gagner? Moi, ça me fait flipper de savoir que une entreprise qui t'écoute, finalement, puisque son travail, c'est de transmettre ta parole d'un point A à un point B. Bon, est-ce que y a pas un point A,2 qui fait que, voilà, ils sont capables aussi de t'enregistrer, et du coup, qui a besoin de 20% subvenir aussi à ses besoins et faire plus de bénéfices. Pour moi, c'est de la vente de données, comme tu le disais, Tyran, et moi, ça me met pas du tout en confiance le fait que d'un coup, en fait, ils se disent « Non, mais on va donner plus d'argent aux développeurs pour les faire venir et en plus faire zéro curation. » Du coup, ça sera un bordel sans nom et puis, bah, c'est pas grave. Mais par contre, du coup, on peut aussi améliorer notre technologie parce que c'est ça qu'ils disent hein, dans leur post de blog sur Discord. Donc, c'est très pudique, hein, le « entre guillemets « améliorer notre technologie ». Qu'est-ce que ça veut dire « améliorer notre technologie » à l'ère de 2018 où une entreprise comme Discord t'a fait signer un truc en fin d'année pour te dire « je renonce à mes droits de faire une class action ». Une class action, c'est se faire un...
Porter partie civile en groupe pour attaquer une entreprise. Voilà,
exactement.
Et ils ont fait signer ça à tous leurs utilisateurs. D'accord.
Donc bon. Très honnêtement, ça pue. Donc faites attention à ce que vous faites avec Discord, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, on entende parler d'un truc vraiment puant de ce côté-là, quoi.
Bah surtout qu'en plus, je voudrais souligner une chose, parce que encore, ce serait une grosse boîte comme Sim, parce que Sim, tu vois, ils ont la base d'utilisateurs pour se permettre une réduction de revenus.
Oui.
Par contre, une boîte qui vient d'arriver sur le marché, d'un seul coup comme ça, hop, moins 20%. Quand même, c'est osé. Parce que on n'est pas avec un Epic par exemple, tu sais, qui peut se dire ouais, bah, c'est pas grave, moi j'ai Fortnite de toute façon. Tu vois, enfin, c'est pas tout à fait le même cas de figure. Bon, ça plus le fait que Epic, il y a aussi des trucs qui sont un peu limite hein, dans leurs conditions d'utilisation sur le plan des données personnelles. Il y a des trucs qui sont un peu chelous qui vont ratiquer aussi, mais Discord pour le coup déjà, enfin je sais pas comment cette boîte fait du pognon à la base. Alors si en plus ils se mettent à renverser la table sur leur modèle économique comme ça, voilà, méfiance. Messieurs, on va maintenant parler du Star Citizen d'Ubisoft, n'est-ce pas? Il y a une vidéo de Beyond Good and Evil 2 qui est sortie. Qu'en avez-vous pensé?
Bah franchement, j'ai trouvé ça enfin intéressant parce que il faut rappeler que on est vraiment sur de l'après-alpha, donc c'est encore assez compliqué quoi niveau visuel. Sinon ouais, j'ai trouvé ça quand même intéressant, c'est très mou.
Ah les combats, c'est
ouais, il y a rien qui m'a donné envie quoi. J'ai juste trouvé ça intéressant au niveau du comment dire des ambitions et de ce qu'ils veulent faire parce
la
que
la DA
sinon,
et l'ambiance ont l'air ouf. Les ouais. notions d'échelle sont absolument ahurissantes, mais tu fais quoi dans ce jeu en fait? Moi c'est toujours les questions que je me pose. Et surtout, est-ce que c'est vraiment ce que voulaient les fans de Beyond Good and Evil?
Non,
clairement voilà. Pas, je pense vraiment pas là, c'est...
Parce que moi je vois ça mais je dis mais quel est le rapport, et je pense qu'ATH va me plus soyer, mais what the fuck?
Non mais c'est clairement ça en fait. Rappelez-vous, en 2008, lors de l'E3, on avait eu un teaser sur Beyond Good and Evil 2 avec Jade et son oncle qu'on voyait dans le trailer. Et donc, du coup, on s'est dit, ah, chouette, on va enfin avoir la suite des aventures de notre reporter préféré. Sauf que, voilà, 10 ans plus tard, on a cette démo de alpha de jeu qui a été présentée par Ubisoft. Et là, en fait, pour moi, ce n'est pas Beyond Good and Evil 2. Enfin, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Beyond Good and Evil. Mais ce n'est pas le jeu que j'attendais, très clairement. Parce que déjà, mon personnage principal que j'avais aimé dans le premier jeu, bah, n'est pas là. Et en plus de ça, ça a l'air tellement de s'éloigner du jeu original en termes de gameplay et de mécanique, que je me dis, pourquoi l'avoir appelé comme ça et pourquoi ne pas avoir fait une nouvelle licence? Surtout que Beyond Good and Evil, c'est pas comme si c'était une licence qui s'était vendue par palette entière. C'est un jeu qui avait été une grosse déception à l'époque. Donc je me suis dit, voilà, quitte à faire un jeu avec des nouvelles mécaniques et une nouvelle ambiance, pourquoi pas proposer un nouveau titre? Après, je dis pas que le jeu va être mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça s'éloigne trop en fait de ce que je connaissais du jeu de base. Après, c'est vrai que, par exemple, la ville qui est Ganesha City qu'on voit dans le trailer, c'est intéressant parce que c'est une ville aux inspirations indiennes, il faut se le dire dans le jeu vidéo, on voit très rarement ça. Donc du coup, je me dis qu'en termes de direction artistique et tout, il y a du travail.
Il y a de l'ambition, ouais.
Voilà. Et justement, l'ambition, moi j'ai un petit peu peur parce que ça a l'air tellement de proposer beaucoup de choses... C'est un peu ce que proposait un peu, entre guillemets, No Man's Sky à l'époque. Et moi, je me dis, est-ce que le jeu, finalement, n'est pas trop gros pour une équipe comme ça, quoi? Est-ce que Ubisoft va investir suffisamment d'argent pour suivre un projet comme ça d'une telle envergure? Mais après, voilà, il faudra voir ce que ça donne en termes de... quand le jeu sera fini, hein. Mais c'est vrai que, pour moi, Beyond Good Niveau 2, c'est... je m'attendais à autre chose. Mais bon.
Ils ont annoncé récemment, d'ailleurs, tu parlais d'ambition, qu'il y avait un nouveau studio, alors qui serait pas français, pour le coup, qui prêterait main forte aux équipes qui sont déjà dédiées à BGE2. Donc on sent quand même la volonté d'Ubisoft, si ce n'est d'accélérer le mouvement, au moins de donner les moyens de son ambition à ce jeu, quoi.
Bon, alors quoi qu'il en soit, on va passer à l'actualité suivante et on va maintenant parler d'Epic qui a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, enfin moi je vois ça comme ça, à savoir qu'ils ont annoncé, comme ça, tranquille, qu'ils allaient mettre à disposition de tous, et quand je dis de tous, c'est vraiment tout le monde, un outil qui permettrait de favoriser le crossplay et de le mettre en place facilement. C'est un outil qui, je cite, sera gratuit pour tous les développeurs, ouvert à tous les moteurs, et toutes les plateformes et tous les stores. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est énorme, parce que en gros, Epic développe le crossplay pour les petits studios, et surtout, alors je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais moi j'y vois aussi un message à toutes les chapelles, à droite et à gauche, on dit, ouais non mais le crossplay vous nous faites un peu chier, vous voyez, en plus c'est une feature un peu mineure, de toute façon il y a plein de studios qui peuvent pas se le permettre, etc. C'est chiant à mettre en place, et là Epic ils arrivent et disent... Écoutez les mecs, maintenant vous avez plus d'excuses, voilà. On vous met à disposition cet outil, n'importe qui peut l'utiliser. Maintenant vous allez faire le crossplay. Merci, au revoir.
Ouais, je pense que ça fait partie de leur plan com aussi, parce que là ils se rendent compte. Bon après c'est pas une décision qu'ils ont prise comme ça du jour au lendemain, mais je pense que l'arrivée du store et puis ça, c'est des décisions qui sont prises pour faire de la com. Ils voient que c'est le seul moyen en fait de s'attirer, on va dire, les bonnes faveurs des joueurs, c'est de mettre des choses un peu plus positives, parce que dernièrement, bah, qu'est-ce qu'on avait? C'était les failles au niveau de Fortnite, tout ça, avec les données qui étaient récupérées par les hackers, enfin, ce type de choses. Donc là, en tout cas, s'ils font vraiment ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire mettre ça à disposition gratuitement et que ça fonctionne et qu'en fait le crossplay est débloqué pour vraiment tout le monde, ça peut être vraiment énorme. En tout cas, là, on va attendre de voir exactement comment ils vont dérouler ça, sachant qu'ils ont aussi d'autres choses à faire avec leur store qui est pas trop up-to-date, on va dire. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Mais s'ils mettent ça en place sérieusement, ça peut être une grosse révolution, quoi.
ATH.
Ouais, on voit bien que Epic a mis un gros coup de pied dans la fourmilière avec cette annonce. Maintenant, faudra voir si, par exemple, Sony, parce que Sony, pour Fortnite, ils ont donné l'accord du crossplay, mais par exemple, les autres studios n'ont pas accès aux jeux cross-platform, enfin, en tout cas, les jeux qui sortent sur PlayStation. Et du coup, est-ce que Sony va pas mettre des barrières dans les roues pour les autres jeux? Parce qu'ils ont dit oui pour Fortnite, mais ils ont pas dit oui, tout le monde peut le faire, quoi. Mm-hmm. Et ça, il faudra voir... Quel est le discours de Sony une fois que...
Mais justement, ça je pense que l'idée aussi, c'est de mettre la pression en disant maintenant, on est plus tout seul, tu vois. Enfin, y a tout le monde maintenant peut le faire, tu vois. Et si tout le monde commence à le réclamer, ben, bizarrement, les gens finissent par s'aimer, tu vois. Enfin...
Moi, j'espère vraiment que le cross-platform va pouvoir être mis en place rapidement pour tout le monde. Et que, voilà, Sony n'ont pas joué encore les retardataires là-dessus. Parce que on dit souvent que Nintendo est en retard sur pas mal de choses, et ce qui est vrai, hein. On pense notamment aux communications entre joueurs, ils sont un peu à la traîne. Mais par contre, sur le cross-platform, ils font pas chier comme Sony le font en ce moment, quoi. Parce que Sony, ils sont en position dominante sur le marché des consoles, et il y a que eux qui mettent des barrières en fait aux autres. Et vraiment, j'espère vraiment que ce coup de pied à la fourmilière va permettre que tout le monde puisse jouer sur sa plateforme de prédilection et jouer avec tout le monde, quoi.
Ouais. Pourquoi les éditeurs aussi mettent la pression là-dessus? Parce que ils veulent faire du jeu à service. Et que le jeu à service, nom de Dieu, on a besoin d'avoir des joueurs, quoi, pour que les jeux ils soient pas morts, pour que les joueurs puissent jouer entre eux, pour créer des communautés autour de leur jeu qui ne soient pas bloquées par les plateformes, tu vois, enfin.
C'est ça. Mais même, regarde, par exemple, des jeux de combat indépendants qui sortent, et qui sortent uniquement, par exemple, sur PC. Et bah, si, les joueurs Xbox peuvent les rejoindre, et les joueurs PlayStation, et les joueurs Switch les rejoignent, bah du coup cette communauté qui était petite et bah peut permettre au jeu de survivre si tout le monde le rejoint sur leur plateforme. Et du coup moi j'ai toujours trouvé ça con en fait d'interdire aux gens de jouer ensemble, et c'est voilà quoi, on est plus sur PlayStation 3 et Xbox 360 maintenant. Tout le monde le fait, donc il faut ouvrir les portes et laisser les gens jouer entre eux, c'est tout.
Voilà, donc Ben, il faut qu'on se mette à Rocket League, hein, sérieusement là, n'est-ce pas?
ouais Non mais c'est vrai que c'est super intéressant ce qu'ils proposent. Alors après, ils annoncent que ça va être disponible pour tous les moteurs, donc à voir si ça marche quand même pas un petit peu mieux sur le leur. Par hasard, un petit hasard comme ça, mais bon après ça serait de bonne guerre aussi quelque part que le dev soit fait avec leurs outils, que ça soit plus efficace, ça serait pas étonnant. Mais voilà, c'est quand même un bon coup de pied, notamment pour Sony qui, on le sait, c'est même pas qu'ils arrivent pas à le faire, c'est qu'ils veulent pas le faire depuis un moment. Ils ont pas eu le choix quasiment avec Fortnite parce que bah par l'ampleur du jeu. Et là du coup Epic a une vraie position de force là-dessus et il dit maintenant c'est plus la balle est plus dans notre camp, maintenant il faut que les autres se mettent au boulot aussi quoi. Et c'est quand même super bien. Alors après à voir comment ça va être mis en place etc. Mais c'est quand même une bonne chose pour l'industrie, ouais.
Mais il y a un truc que je trouve intéressant avec ce move, en fait, c'est que on a l'impression que Epic, ils en ont marre de l'attentisme de Sony sur ce point-là tout particulièrement, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, plutôt que de les attendre, on va créer nous-mêmes l'écosystème. Et au bout d'un moment, en fait, t'as beau être une marque qui est dominante, etc., tu peux pas laisser un écosystème aussi énorme que le cross-platform sur tous les supports se créer sans toi. Au bout d'un moment, il va falloir que tu cèdes, tu vois, que tu te mettes à l'intérieur. Et je pense que c'est ça l'objectif d'Epic Games avec ce move-là. Alors bon, ça prendra plusieurs mois. Hein. Il y a une roadmap hein, qui a été donnée par Epic Games qui va jusqu'au quatrième trimestre 2019. Hein, donc ça va
et
prendre.
Ça commence exactement mi-2019, le début du déploiement de leur plan, quoi. En tout cas.
Après, il faut que ça soit implémenté dans les autres moteurs aussi, par exemple sur Unity, ce genre de choses. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, très clairement. Ouais.
Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant que un éditeur et un développeur qui est clairement en situation très très favorable d'un point de vue industriel fasse ce genre de move-là. Alors oui, on en a parlé, il y a effectivement une dimension marketing derrière, mais il y a aussi une dimension clairement en faveur de l'utilisateur et ça peut que bénéficier à l'utilisateur final. Donc moi je trouve ça très intéressant ce qu'ils sont en train de faire.
Bon, on va terminer avec le foutage de gueule de la semaine, messieurs. Alors, Capcom, vous savez, c'est une boîte qui est très bizarre. Des fois, ils te font des trucs fabuleux, et des fois, ils te font de la grosse merde. Et là, on est dans le Capcom des mauvais jours, c'est-à-dire que, je rappelle quand même, Capcom, c'est une boîte qui est capable de te dire, ok, on va sortir un jeu comme Monster Hunter World, il y aura pas de microtransactions, on sera super réglo, machin, on va te sortir du contenu régulièrement, ça sera gratos, etc., il n'y a pas de problème. Et ils ont tenu parole, tu vois. Monster Hunter World, c'est un des jeux les plus réglo que je connaisse en termes de modèle économique. Et là, bon, vous vous en doutez, hein, j'ai dit plein de bien de Capcom, donc forcément, là, je vais les défoncer. C'est-à-dire que vient-il de se passer? Eh bien, Capcom a décidé que, bon, vas-y, Street Fighter V, c'est mort, de toute façon. On a déjà ajouté des lootbox pour gagner un maximum de cash. Et histoire d'en rajouter une couche, tu vois, de soutirer le maximum d'argent avant que le jeu crève, on va rajouter un système absolument gerbant qui existe depuis des années sur mobile sur des jeux free-to-play. Hein.
Oui, c'est ça, surtout.
Je rappelle que Street Fighter V est jusqu'à preuve du contrat payant, hein, voilà. Et pas qu'un peu, hein, si je puis me permettre, n'est-ce pas? Ils ont décidé que, bah, écoutez, on va rajouter des publicités dans le jeu, quoi. Alors, c'est pour des produits Capcom, pour le moment. Hein ?
Pour le moment.
Pour le moment. Peut-être que plus tard, ils seront tentés d'en rajouter pour d'autres marques. Mais c'est genre pas subtil, tu vois. C'est-à-dire que déjà, ils en mettent dans les écrans de chargement, ils en mettent dans les stages eux-mêmes, et surtout, et c'est là le plus dégueulasse, je trouve, ils en mettent sur les persos. Alors, je sais pas si vous voyez Akuma avec son super kimono et le signe et tout, et là, vous voyez une grosse pub à la place du Capcom Pro Tour. Mais allez vous faire foutre Capcom, quoi. Mais sérieusement, mais crevez la gueule ouverte, quoi. Mais comment on peut manquer de respect à ce point à sa propre licence? Putain, tu vas même salir la direction artistique de ton jeu et l'intégrité de tes personnages. Mais en plus, vous allez gagner quoi avec ça, sérieux? Des cacahuètes, quoi? Vous allez vous mettre toute votre communauté à dos? Parce que je peux vous dire que les fans de Capcom, là, ils sont légèrement vénères. Déjà qu'ils avaient du mal à digérer les lootbox. Alors en plus, ils rajoutent la publicité derrière. Mais sérieux, mais... Je comprends pas.
Et déjà qu'ils sont pas beaucoup, en plus, mais à jouer à Street Fighter 5.
Vous avez énervé vos 11 joueurs, les gars.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que Street Fighter, ça a toujours été une force communauté de gens et vraiment de passionnés, un noyau dur, qui est là depuis très très longtemps. On voit dans les tournois, souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent d'une édition à une autre. Là, ils sont en train tout simplement déjà de manquer de respect aux gens qui aiment jouer à Street Fighter. Mais en plus de ça, c'est quoi la prochaine étape pour nous, les joueurs? C'est-à-dire que maintenant, dans les jeux vidéo, il faudra pouvoir installer un système adblock pour jouer à nos jeux vidéo sans publicité, sans parasite.
Attention, ils ont prévu la parade ATH, attends, tu vas voir. Alors, tu peux refuser d'afficher les publicités.
Ouais.
Il y a une petite carotte, hein, évidemment. Parce qu'il se trouve que quand tu affiches les publicités, tu gagnes des points spécifiques au jeu qui te permettent de débloquer des costumes.
Ah mais si c'est pour débloquer un Akuma ou son Kanji remplacé par un logo Coca-Cola, tu vois, limite je préférerais m'en passer.
Ah non,
quoi.
Non, mais tu débloques des vrais costumes. Tu sais, les costumes qu'avant tu avais gratuitement, maintenant, pour les débloquer, il faut que tu aies les points en question pour pouvoir choper ces costumes-là. Il y a des costumes spécifiques à ce système-là, qui sont pas des costumes avec de la pub dessus, hein, mais c'est des vrais costumes. Quoi qu'il arrive, tu es pénalisé en tant que joueur, si tu refuses d'afficher la publicité. Parce que je suis désolé, c'est ce qu'on disait la dernière fois, tu vois, sur le modèle économique. Le modèle économique a forcément un impact sur le joueur, que tu le veuilles ou non. Là, en l'occurrence, ce sont des choses, encore une fois, qui étaient gratuites autrefois. Moi, je suis désolé, fut une époque, les costumes, c'était gratos. Hein. Tu jouais, tu les débloquais.
Non, mais même en plus de ça, en termes de chara-design des personnages, ça nuit complètement à leur identité. Par exemple, Guile, qui avait un tatouage du drapeau américain qui était sur son bras, bah maintenant il est remplacé par un logo tout moche quoi. Et aujourd'hui c'est des publicités Capcom, mais qui dit que demain ça sera pas Sprite, Coca-Cola,
attends,
Doritos qui va arriver.
Le pire honnêtement je trouve que c'est Dalsim hein. Dalsim tu sais oui, avec non, ses crânes où il y a le logo qui est sur le crâne, mais tu fais mais en plus ils ont même pas cherché à être cohérents dans le truc où tu fais mais what the fuck quoi.
Ça nuit à l'identité visuelle, ça nuit aux joueurs, et normalement ça ne devrait pas exister dans un jeu qui est vendu dans le commerce à ce tarif là. Encore ça serait un jeu gratuit. Déjà que je suis pas fan de la méthode, mais là en plus ça, t'as payé ton jeu et on continue à te faire chier quoi. Pour moi c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi.
En tout cas, il montre qu'il y a vraiment pas de limite à la monétisation. Hein. C'est impressionnant quoi. Mais je rappelle aussi que les gens sur Internet, ils sont habitués à avoir un adblocker sur leur navigateur. Dans un jeu vidéo, si tu veux éviter les publicités qui sont dans ce même jeu vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu ne l'achètes pas. Et donc, est-ce que au bout d'un moment, ça va pas aussi leur être dommageable? Il faut faire aussi attention, quoi.
Mais surtout, comme on l'a dit, ils n'ont pas bien vendu le jeu, déjà. Donc,
Bah, il faut dire qu'à la base, ils ont cherché la merde. Hein.
Non, mais surtout qu'à l'époque, déjà, ils disaient que Street Fighter V, ça serait une version unique. 2 ans après, ils annoncent la version arcade. Bon, là, j'attends la version arcade volume 2, hein, parce que... Capcom, c'est Capcom.
La version sans publicité.
La version sans pub, bien sûr. Ouais, c'est Street Fighter 5 Premium.
C'est ça.
Street Fighter 5 No Ad plus Ultra.
Ouais, c'est ça. C'est ça, putain. Mais ils sont capables en plus.
Remix.
Voilà. Mais par contre, je voulais noter une chose aussi. Ce move-là, c'est la preuve du côté absolument cancérigène du jeu à service, quoi. C'est-à-dire que un jeu qui peut être tout à fait réglo à sa sortie, et je dis pas qu'il était dans ce cas-là, mais vous voyez que, du jour au lendemain, comme ça, on te met des douilles, alors que le jeu, il pouvait être réglo à la base. À la base, il n'y avait pas de lootbox hein, dans Street Fighter V, il n'y avait pas de publicité, mais comme on est dans le monde merveilleux du jeu à service, du jour au lendemain, comme ça, l'éditeur, il peut décider de complètement niquer le jeu, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et après, on va te dire, ah bah oui, mais t'as qu'à plus y jouer, hein. Ah oui, bah c'est sûr, oui, effectivement, t'as qu'à plus y jouer, connard. Et après, le truc, c'est que on t'a demandé d'investir pendant des années dans le jeu, et on te dit, en gros, du jour au lendemain, bah voilà, tu t'as investi pendant des années dans le jeu, si ça se trouve, t'en as fait la promotion, etc. Bon, c'était sympa, maintenant, casse-toi, merci. Bah, évidemment, ouais. Les gens, ils les prennent mal, hein. Voilà.
C'est clair. Moi, il y avait justement un cas qui m'avait marqué, c'est celui de Shadow of War. Shadow of Mordor, j'avais adoré. Et le Shadow of War, mais la monétisation, elle était horrible. Donc du coup, moi, tout le monde a mis sur Twitter, les gars, laissez tomber, c'est horrible ce que vous avez fait. Le jeu s'est effectivement mal vendu au départ. Et ils se sont vraiment excusés, quoi. Ils ont fait un long post pour s'excuser et dire, on est désolé, la monétisation effectivement a niqué le jeu. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir après qu'est-ce que ça va donner au niveau des prochaine production Warner Bros et plus particulièrement Monolith. Du coup,
là où
mais...
c'est une vision à court terme aussi, c'est que tu détruis la confiance des consommateurs en faisant ça, quoi.
Ah, mais
parce qu'il y a des mecs qui se disent, bon, bah, je vais pas acheter le jeu Day One, on sait jamais, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Enfin, bon, déjà, acheter le jeu Day One, c'est mal, hein, à la base, hein. Moi, je le dis comme je pense, hein. Attendez d'avoir des avis, peut-être, pour vous lancer. Mais, en plus, tu te dis, même si le jeu est réglo à la base, finalement, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre un peu pour le choper déjà moins cher? Et en plus, comme ça, je serais sûr que au moins ça fera un certain temps, tu vois, si ça a l'air réglo, je prends, quoi. Enfin, c'est... Ouais. tu crées un espèce d'attentisme chez le joueur qui est pas sain non plus, quoi. Enfin, au bout d'un moment.
Mais avec ça, enfin, ce cas-là, il m'avait marqué parce qu'il y a des gens, on va dire, très bien et pas trop cons, qui me disaient, quand moi je faisais « non, je vais pas l'acheter », qui faisaient « non, mais de toute façon, vous êtes des joueurs rageux, vous en faites trop, machin ». Et là, Warner Bros. A fait un long post des mois après pour dire « on est désolé, on a merdé, le jeu c'est de la merde à cause de ça ». Donc là, tu dis « bah alors ». Qu'est-ce que tu me racontais là ?
Enfin, après, ils ont fait ça, très honnêtement, à mon avis, c'est pas venu de gaieté de cœur et de bonté d'âme, c'est qu'ils ont vu que les ventes étaient décevantes, donc ils se sont dit, on va reprendre le truc,
mais,
tu vois.
Mais
donc,
c'est quand même marquant, bon, parce qu'ils se sont réellement aplatis, quoi. Ils se sont excusés.
Bien sûr, mais ça aurait cartonné, ils auraient rien dit, t'inquiète, hein.
Ouais, bien sûr, ça,
après,
je suis d'accord.
Je comprends ce que Dwight veut dire dans le sens où, même quand des éditeurs font de la merde, exemple Electronic Arts, c'est pas dans les habitudes des boîtes de reconnaître qu'ils ont fait de la merde, en fait.
C'est vrai.
Donc c'est suffisamment rare pour être noté. Après, ça n'excuse pas le fait d'avoir fait de la merde au départ.
Bien sûr.
D'accord.
Là où c'est intéressant, en fait, c'est que l'achat de votre jeu, que ça soit Day One ou pas, vous signez pas du tout un contrat, en fait, avec l'éditeur et le développeur.
Tu peux te faire niquer, quoi qu'il arrive.
Clairement, et on vous en a parlé plusieurs fois, le fait de soutenir un jeu qui a un modèle économique en plus souvent basé sur de la monnaie in-game ou de la vraie monnaie, tu sais très bien que ça peut être amené à tomber sans dessus-dessous à n'importe quel moment.
Oui, parce que en gros, c'est une pure relation de confiance, quoi, en fait, tu vois.
Exactement.
Tu donnes ta confiance en l'éditeur en disant, bon, vous avez de l'air illo, ok, je vous crois, d'accord. Je crois que vous n'allez pas essayer de me niquer à un moment donné.
Ouais.
Le problème, c'est que la confiance, ben, ça peut se trahir, quoi.
C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Surtout des éditeurs comme Capcom qui n'ont pas que Street Fighter à vendre, ça peut aussi déteindre sur d'autres jeux. Et donc, faut qu'ils fassent très très attention à ce qu'ils font.
Ce que je trouve très intéressant par rapport à Shadow of War, là où ça devient payant, c'est le dernier acte, l'acte 5, il me semble, de ce que j'ai vu, où ouais, là, la difficulté est vraiment rehaussée, et que du coup, limite, pour pouvoir finir ton jeu, t'es obligé soit d'avoir de la chance pour pas débourser un euro, ou soit sortir la carte bleue. Et ça, c'est un truc, bah déjà, c'est fou, parce que pendant tout le jeu, t'as une progression, on va dire, constante. Tu joues à ton jeu de manière classique. Mais, une fois arrivé sur la fin du jeu, je dis, bah en fait, si tu veux voir la vraie fin du jeu, il faut que tu payes. Ça la fout un petit peu mal. Et pour revenir sur Capcom, c'est une société avec laquelle j'ai grandi, donc forcément, j'ai une certaine affinité avec leur jeu. Mais par exemple, quand Resident Evil 7 a été annoncé, moi, je l'ai pas acheté directement Day One, parce que je savais que c'était Capcom. Capcom is Capcom. Du coup, quelques mois après la sortie du jeu, ils ont annoncé une édition GOTY avec tous les DLC du jeu, avec l'édition complète, les costumes, machin chouette. Et c'est ça quand on parle de relations de confiance. Je sais que Capcom fait aime bien faire cette politique-là. Après, même, on va dire, peut-être les DLC de Resident Evil 7, ils sont pas terribles et tout, mais moi, je vais acheter le jeu complet. J'ai pas envie, ça me fait chier à chaque fois de débourquer 5 euros par-ci, 10 euros par-là, pour avoir une version, on va dire, quasi complète du jeu. Et c'est pour ça que même, par exemple, Monster Hunter World, j'attends que toutes les annonces soient faites et tout, et qu'ils sortent le jeu. Il y a plein de boîtes que je sais quand ils fonctionnent comme ça, je préfère me méfier et attendre vraiment, sur le long terme, qu'ils annoncent une édition complète, et puis je la prendrai, quoi. Mais sinon, non.
Ouais, mais c'est toujours pareil, nous on est plutôt des joueurs avertis, donc on fait attention à ce genre de choses. Aujourd'hui tu mets de la pub dans Fortnite, bon c'est pas un jeu que t'achètes, mais dans un jeu à gros succès comme ça, tu rajoutes de la pub, est-ce que la nouvelle génération de joueurs va pas dire ouais tant pis, on s'en fout, on l'achète quand même? C'est ça moi qui me fait peur, et qu'on arrive à un phénomène où de plus en plus de jeux en intègrent, parce que de toute façon tous les nouveaux joueurs vont y être habitués, ça va devenir une nouvelle habitude de jeu, en fait.
Surtout quand c'est une génération de joueurs qui est habituée au gratuit, quoi. Enfin,
ouais, c'est ça.
C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec le jeu sur mobile, parce que le mobile c'est une plateforme essentiellement gratuite, en fait. Le modèle premium c'est l'exception, et le problème c'est que le jeu gratuit dans ce modèle économique là, les studios réglo, c'est aussi l'exception. Et quand t'as une génération de joueurs qui commence à être habitué à ne pas payer pour ses jeux, à payer des microtransactions par-ci et par-là, moi ça me pose un problème. Après, bon, je suis un vieux con, quoi. Rien à ajouter, messieurs?
Non, ça conclura le podcast pour cette année. Je pense que ça fonctionne bien avec l'année
prochaine. Tu arrêtes le vieux con.
Non, que on a de gros problèmes de modèle économique en ce moment avec l'industrie du jeu vidéo. Je pense que c'est ça conclut bien.
Oui, c'est sûr.
Ouais, 2018 fut une année, n'est-ce pas, en termes de modèle économique assez problématique,
assez douteuse.
Voilà,
et c'est pas
ça.
Fini. Hein.
Bon. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, écoutez, c'était le dernier podcast de cette année. Alors, le prochain enregistrement, normalement, il devrait se faire dans la première semaine de janvier. Donc, attendez-vous à une diffusion le mercredi 9. Voilà. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très bonne année, une très bonne santé, un joyeux Noël. Et surtout, je tenais à remercier nos auditeurs. Bon, déjà, vous prenez le temps de nous écouter, si vous êtes courageux. Hein. Et aussi ceux qui prennent le temps de venir commenter.
Nos romanciers.
Voilà, c'est ça. Nos romanciers, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois, parce que je me dis, mais les pavés qui nous pondent des fois, mais vous êtes des fous, les gens. Et l'Athènes qui nous demandait notre secret. Parce que quand même, ah oui, il faut que je réponde à ça. Alors, il y a l'Athènes sur les derniers commentaires de l'émission qui nous a demandé « Quelle pêche vous avez dès le début du podcast ? C'est quoi la recette de votre smoothie vitaminé du matin ?»
Si tu savais.
Alors spoiler, on enregistre le soir.
Voilà, c'est ça. Déjà, j'allais répondre effectivement. On est fatigué, hein. C'est con, hein, mais en vrai, on est crevé. Là, du coup, on raconte que de la merde. Donc, c'est sympa de nous écouter, hein. Mais en vrai, on vous dit que de la merde hein, toutes les semaines. On est tellement déchaîné.
Généralement, il y a TH qui troll un peu avant le podcast aussi, parce que bon,
ça nous met des tailles.
T'as les habitudes, donc on est chaud quand ça commence après.
Merci de l'image que tu donnes de moi aux auditeurs.
Mais tout le monde sait que t'as
un troll. Non, mais ils me connaissent.
Bon, ça plus le fait que c'est vrai, on passe 3 heures à discuter avant, donc on commence encore plus tard, et du coup il est encore plus défatigué et on dérape encore plus. Bon, ça plus le fait que, je tiens à le dire, moi en tout cas en tant que monteur, et Dieu sait que j'en chie en tant que monteur, je vous le dis, voir ces commentaires, bah c'est ce qui me fait tourner chaque semaine, parce que je me dis voilà, il y a des gens qui apprécient notre travail, même si je suis pas toujours super satisfait du résultat, etc. En tout cas, on fait notre maximum, hein, ça je tiens à le dire. Et si ça vous plaît, écoutez, bah c'est super. En tout cas, on est content de vous accompagner au quotidien et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Super bonne année à tous, joyeux Noël, ciao.
Salut tout le monde,
bonne ciao fête. À tous.
Merci, et puis le podcast sur Red Dead Redemption 2, c'était la plus grosse galère parce qu'on était bien, bien fatigué. Allez, bon jeu à tous et salut.
Ciao. Shot full of holes and I'm hiding under your bed. Got some cookies, got some milk, got my shotgun trained on the chimney. You stole my woman and all I want for Christmas is to kick your ass. All I want for Christmas is to kick your ass. White bit blood satin suit, looking down on me from your sleigh. All I wanted was my blue-eyed babe, but with a sack and his grin, he winked and they rode away.